Suivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
Bonjour à tous et nous sommes en direct sur Radio Territoria, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission dans le cadre du congrès USH à Montpellier. Dans cette émission avec l'ANRU, on va s'intéresser au rôle crucial que peut jouer l'économie sociale et solidaire dans les projets de renouvellement urbain, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et pour parler de ce sujet, eh bien, plusieurs invités m'ont rejoint en plateau, que je vais saluer. Marianne Cueck, bonjour. Oh, on vous a pas entendu.
Bonjour.
Voilà. Vous êtes chargé de mission développement économique, insertion, emploi à l'ANRU. Benjamin Guéraud-Pinet, bonjour.
Bonjour.
Chargé de mission au RTES, le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Bienvenue à vous. Jérôme Sturla, bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'association AFEV, développement urbain et du lab AFEV. Et puis Claire Brin-Mandon, bonjour.
Bonjour.
Délégué territorial AFEV Montpellier. On est chez vous, là.
Oui, tout à fait, bienvenue à vous.
Eh ben, on est super content d'être là. Marianne, je le disais à l'instant, vous êtes chargée de mission développement économique, insertion et emploi à l'ANRU. Eh ben, première question, tout simplement, en quoi ça consiste votre job? C'est quoi vos missions concrètement au quotidien?
Eh ben, c'est une excellente question. En fait, à l'ANRU, on a vraiment, depuis le premier programme de rénovation urbaine dans les années 2000, une approche des projets urbains intégrés. C'est-à-dire qu'on va certes parler de rénovation urbaine, on va certes parler de construction, de démolition, d'aménagement, d'espace public, mais on va aussi parler de toutes les thématiques qui ont trait à un bon projet urbain. Et le développement économique, l'insertion et l'emploi en font partie. Le levier des projets de rénovation urbaine, il est immense sur ces sujets-là. Déjà parce que, ne serait-ce qu'avec l'activité même liée à tous ces projets, on peut avoir des opportunités d'emploi pour les habitants et les habitantes des quartiers, mais on peut aussi avoir, dans une logique plus d'urbaniste, beaucoup d'opportunités foncières, d'opportunités de locaux, d'opportunités de création d'activités, d'implantation de filières par exemple localement, parce que c'est aussi refaire des bouts de ville pour des fois presque un siècle qu'on fait dans ces projets en rue. Donc c'est pour ça qu'à l'ANRU, nous avons un pôle entier au sein de la direction de la stratégie qui est dédié à ces questions au sens large de développement économique, qui intègre aussi l'agriculture urbaine par exemple, aussi des thématiques comme le sport, aussi des thématiques comme la ville créative. Et ça c'est important parce que pour des projets vraiment intégrés et des projets urbains vraiment complets, il faut vraiment avoir aussi ces compétences.
Ok, merci. Alors, pour quelles raisons l'économie sociale et solidaire a un rôle, on va dire, prépondérant dans les projets de renouvellement urbain, dans ces quartiers prioritaires?
Eh bien, c'est une très bonne question aussi, parce qu'en fait, on a souvent tendance à penser que l'économie sociale et solidaire, c'est uniquement des associations sans salariés qui vont faire de la concertation locative ou des groupes en fait d'habitants par exemple ou de personnes, et sans forcément de dimension plus économique. Mais en fait, l'économie sociale et solidaire, c'est un vrai levier pour l'économique, mais qui en plus de ça la force de son modèle, c'est aussi de mettre en avant un modèle différent d'une économie classique. Et ça, dans les projets intégrés de rénovation urbaine, ça nous intéresse beaucoup. Pourquoi ? On parle énormément en ce moment, par exemple, de la question de la co-construction avec les habitants, de la co-construction des projets, de la prise en compte de leurs paroles tout au long du projet et pas uniquement dans les phases préalables. Or, l'économie sociale et solidaire, mais les autres intervenants le rappelleront certainement, ça met vraiment les habitants, les personnes au cœur d'un modèle. Et aujourd'hui, quand on pense un projet de rénovation urbaine sur les aspects économiques, mais aussi sur les aspects de santé, de mobilité, de logement, de mixité sociale, il y a des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui mettent au cœur de leur projet l'habitant, la personne, qui propose des solutions. D'ailleurs, en 2019, l'ANRU avait d'ores et déjà lancé le sujet de l'économie sociale et solidaire au cœur de ses projets, même s'il y avait des petites choses qui existaient déjà et qu'on ne voit pas forcément quand on est l'ANRU, on le voit sur le territoire, avait déjà lancé la communauté des innovateurs. Les innovateurs, c'était quoi? C'était une centaine, presque 200 structures innovantes qui proposaient des solutions pour la ville, et pour l'innovation urbaine, dont une grosse partie était des acteurs de l'ESS. Et ça montrait bien qu'en fait, il y avait déjà plein d'acteurs qui avaient des solutions à proposer et qui pouvaient co-construire avec les porteurs de projets, les maîtres d'ouvrage, les projets urbains. Plus récemment, nous avons sorti une publication qui s'appelle ESS et renouvellement urbain, un levier pour la réussite. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les solutions ESS, elles sont sur plein de domaines. Vous retrouvez cette publication sur le stand de l'ANRU et sur notre site internet.
D'accord, en fait, vous êtes hyper actif sur le sujet, quoi.
On n'est pas hyper actif si en fait on propose des choses, mais parce qu'aussi il faut se dire que dans le premier programme, on a souvent dit que le développement économique n'avait pas été assez loin, que l'ANRU n'avait peut-être pas été assez loin sur ces sujets. L'idée, c'est pas forcément de remplacer tout le développement économique par l'ESS, mais c'est aussi d'avoir une approche plus large du développement économique et de se dire que ça fait système. Et quand on parle de projet urbain et de rénovation urbaine intégrée, on parle aussi de ça.
Et la publication, là, vous l'avez apportée avec vous. Ok, et donc elle est disponible.
Alors, elle est disponible sur le centre de Lanrue et sur le site internet. Et ouais. Il s'agit d'une publication qui est la première publication d'une nouvelle collection de Lanrue qui s'appelle Les Regards Sûrs, ouais. Et qui permettra de mettre en avant des sujets comme l'économie sociale et solidaire qui ne sont pas forcément considérés comme des sujets au cœur de nos thématiques pour le moment, ouais. Mais qui pourtant sont des sujets très importants pour nos projets.
Ok, et en dehors du NPNRU, quels sont les programmes ou initiatives qui vont favoriser l'implantation de structures de l'ESS dans les quartiers justement en rénovation urbaine ?
Alors on a déjà parlé donc, du réseau des innovateurs qui a repéré plus d'une centaine de structures pour les solutions innovantes qu'elles proposent pour la ville, dont une grande partie de structures de l'ESS. Et on a aussi eu à l'ANRU des programmes d'innovation qui nous ont permis de voir que ces acteurs étaient parfois très centraux dans des projets innovants que proposaient les collectivités autour de certaines thématiques. Par exemple, la lutte contre l'économie... La lutte pour l'économie informelle, enfin pour formaliser l'économie plutôt. Par exemple, la meilleure mixité sociale, par exemple, des projets autour de la commercialité aussi des quartiers. Mais on a aussi aujourd'hui une démarche qui a été lancée depuis 2 ans qui s'appelle Quartier Résilient, qui est une démarche qui entraîne tous les programmes de l'agence dans une relecture aussi de leurs projets avec une notion de transition écologique très forte. Or, l'économie sociale et solidaire constitue un des piliers principaux de ces sujets de résilience et notamment sur le volet économique, mais pas que. Et donc c'est comme ça qu'on a plutôt aujourd'hui cette tendance à venir réanalyser les projets et à venir se poser la question de quelle place on peut laisser à cette économie dans les projets de rénovation urbaine, à toutes les étapes de leur conception et de leur réalisation, pour justement les rendre plus résilients.
Et dans quelle mesure finalement l'ESS, l'économie sociale et solidaire, contribue-t-elle aussi à améliorer par exemple l'emploi ?
Oui, c'est une très bonne... Eh ben, l'emploi, pour le coup, c'est... Donc, comme je disais tout à l'heure, toutes les structures ESS n'ont pas vocation à devenir des structures employeuses. Donc on peut voir certes l'ESS comme un des médias ou des moyens d'arriver à créer de l'emploi localement, mais toutes ne l'ont pas. Mais quand même, il y a une grande partie des structures de l'ESS qui ont des salariés. Donc déjà, il ne faut pas oublier que plus de 25% des emplois dans les quartiers prioritaires de la ville sont portés par des structures de l'ESS, donc ce n'est pas anodin. Et on se rapproche même des 30% quand on ne parle que de l'emploi privé, parce que les structures ESS sont des structures privées. Et donc c'est très important de se dire que les structures de l'ESS, demain, on pense des fois uniquement au sujet des objectifs d'insertion, des clauses sociales, des marchés réservés, mais c'est pas que ça. C'est aussi des structures employeuses qui travaillent sur les quartiers. Ça peut être demain un commerce solidaire qui, je prends l'exemple des boules-sols à La Ciotat, par exemple, sur le projet en rue de l'Enrue 1, qui a ouvert une boulangerie solidaire qui forme des boulangers qui donnent du pain à prix accessible sur le quartier et qui est sur un modèle de l'économie sociale et solidaire. Je pense aussi, par exemple, à la Fève, qui aura la parole juste après, qui est aussi une structure ESS qui crée des emplois, puisqu'il y a des gens qui mettent en œuvre ces projets. Je pense aussi à des membres de notre communauté Quartier Fertile, qui ont des fermes urbaines sur les quartiers et qui très souvent quasi exclusivement sont sur un modèle de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Tout ça, c'est aussi des opportunités de création d'emplois, d'autant plus que le modèle de l'économie sociale et solidaire, mais pareil, les autres intervenants en parleront, permet aussi d'avoir souvent une approche beaucoup plus inclusive, oui. Et donc de créer beaucoup plus d'opportunités d'emploi adaptées aux populations, aux habitants des quartiers peu qualifiés, mais aussi demain, pourquoi pas, aux habitants des quartiers qui sont qualifiés. L'ESS, c'est vraiment une palette d'opportunités.
Opportunité de création d'emplois, opportunité de ralentir aussi la pauvreté, ou en tout cas de la réduire.
En tout cas, d'avoir peut-être une meilleure redistribution des ressources, parce que l'un des principes de l'ESS, c'est aussi la non-lucrativité et le fait de redistribuer les ressources. Et quand on parle, je pense aujourd'hui, à un secteur qui est totalement au cœur de l'actualité, quand on parle par exemple de petite enfance et de secteur privé de la petite enfance, il y a deux secteurs privés de la petite enfance. Il y a le secteur privé de la petite enfance lucratif, il y a celui de l'ESS. Et ça, par exemple, le jour où toutes les structures ESS, toutes les crèches, par exemple, seront sous un modèle ESS, en tout cas les crèches privées, il y aura peut-être moins de problèmes de rentabilité.
Ok, ça c'est dit, le message est envoyé, on l'a bien compris. On enchaîne avec Benjamin Guéraud-Pinet. Je rappelle que vous êtes en charge de la mission au RTS, réseau qui réunit près de 200 collectivités territoriales et qui s'engage pour le développement justement de l'ESS sur leur territoire. Très concrètement, quel est le rôle de ce réseau et quels sont là aussi, l'ensemble de vos missions ?
Alors le RTS est un peu moins connu que certaines grandes associations d'élus de collectivités, mais qui a en fait une double spécificité. D'une part, c'est une association donc nationale de collectivités, mais de différents niveaux. C'est-à-dire que contrairement à l'association des maires de France ou des départements ou des régions, on va rassembler des régions, des départements, des intercos, des municipalités. Donc près de 200 collectivités aujourd'hui, vous l'avez dit, autour du sujet économie sociale et solidaire. Ça, c'est notre deuxième spécificité, c'est d'avoir du coup ce trait d'union. Il y a peu de sujets comme ça qui font commun entre les différents niveaux de collectivité, a fortiori avec la loi NOTRe, la répartition des compétences, etc. L'ESS, nous, on fait la démonstration que c'est l'un d'eux, que c'est central, parce que l'ESS va adresser l'ensemble des politiques publiques locales. Alors, le travail du RTES, très concrètement, ça va être de mettre en valeur, de promouvoir, de documenter les initiatives des collectivités en matière d'économie sociale et solidaire. Ça va être d'en faire la promotion également auprès des autres institutions, que ce soit l'État, l'Europe et même les autres collectivités, hein, auprès de la région pour une commune, etc. Ça va être aussi favoriser le partage de bonnes pratiques, de connaissances, puisque souvent on a des collectivités qui nous sollicitent avec une problématique qui a déjà été rencontrée par une autre collectivité qui a déjà trouvé une super réponse avec ses acteurs de terrain. L'idée, c'est pas de tout répliquer. Et puis, il y a également un volet de plaidoyer, hein, comme l'ensemble des associations de collectivités. C'est-à-dire aussi plaider pour faire évoluer le cadre, plaider pour flécher les budgets nécessaires là où il faut, plaider pour laisser aussi la capacité aux collectivités qui souhaitent y aller, parce que parfois on a aussi ces contraintes-là. Donc c'est ça les grandes missions du RTES.
C'est déjà pas mal. Et vous êtes également à l'initiative et signataire de la déclaration commune des réseaux de collectivités locales en faveur justement de l'ESS. Là aussi, on peut en dire quelques mots.
Alors ça, c'est important parce que je le disais, le RTES est un peu plus confidentiel comme association. Elle est principalement, et c'est pas un mal, connu par les élus en charge de l'ESS, les services dans les collectivités en charge de l'économie sociale et solidaire. En 2013, donc dans le cadre de c'était le gouvernement Hollande, c'était, je crois, à peine un mois avant la nomination d'un ministre délégué au sujet, c'était Benoît Hamon à l'époque, et dans la perspective d'accompagner, de pousser l'État à faire la loi ESS qu'on a connue un an plus tard. L'idée, c'était d'embarquer du coup toutes les grandes associations d'élus, donc l'ARF pour les régions, l'ADF, l'AMF, l'ADCF, l'AMGVF, l'AMRF, enfin, pas en oublier, toutes ces associations d'élus qui du coup se sont retrouvées autour d'une volonté commune de promouvoir la coopération entre acteurs ancrée dans les territoires, parce que il y avait une dynamique ESS portée au niveau national. L'idée, c'était de rappeler que l'ESS elle prend ancrage dans les territoires, de marquer l'essai, de poursuivre cette dynamique-là. À l'époque, on a des collectivités qui, alors on n'est pas dans le même cadre budgétaire, mais mettent des sous sur l'économie sociale et solidaire. Et au moment où on pressent l'engagement de l'État, l'idée, c'est de faire en sorte que l'État suive. Et on l'a vu derrière, ça a donné lieu à des politiques de soutien, un euro pour un euro, des choses comme ça, ambitieuses. Mais c'est un soufflet qui n'est pas retombé, hein, parce que ça faisait 10 ans l'an dernier. Et l'an dernier, on a fait une nouvelle tribune avec de nouveau un certain nombre de ces mêmes réseaux de collectivités locales. Cette fois, plus en lien avec la transition environnementale. Mm-hmm. L'idée, c'était de rappeler que l'ESS, c'est pour nous un cap pour une transition juste. Hein, puisque derrière, on avait, c'est dans l'actualité, hein, en ce moment, des articles sur les besoins d'investissement, la transition des collectivités. Et pour rappeler qu'aujourd'hui, les acteurs de la transition dans nos territoires, ce sont quand même beaucoup, voire principalement, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Les investisseurs, beaucoup, voire principalement, les collectivités sociales et solidaires. Donc, marquer cette volonté que cette transition dans nos territoires, elle se fasse avec les acteurs locaux.
Alors rapidement, tout à l'heure, on parlait d'un guide qui a été publié par l'ANRU. Il se trouve que le RTS a publié un guide intitulé « Développer l'ESS dans les quartiers politiques de la ville » pour renforcer justement les coopérations entre l'État, les collectivités locales et les structures de l'ESS pour faire des quartiers prioritaires, des pôles de développement durable et solidaire. Est-ce qu'on peut citer quelques-uns, par exemple, des 10 leviers spécifiques mentionnés dans le guide pour renforcer justement l'ESS dans ces quartiers qui sont prioritaires?
Alors, en fait, il faut revenir à la genèse de ce guide-là qui partait d'un constat malheureux, c'est que, alors on travaille beaucoup en silo et on le regrette dans beaucoup d'institutions publiques, et c'est pas moins le cas dans les collectivités, peut-être moins dans les plus petites, mais du coup on travaille beaucoup en silo, et le premier constat amer qu'on faisait, c'est que les acteurs de la politique de la ville d'une part, communes, interco, beaucoup, le département aussi et l'État surtout, déconcentrés, et les acteurs de l'économie sociale et solidaire d'autre part, mais même au sein de la même collectivité, ne se connaissaient pas, ne se connaissaient pas assez. Donc le premier levier finalement, mais c'était pressenti, qu'on a fait ressortir, c'est cette interconnaissance-là entre les acteurs étatiques et même au sein même des collectivités, de la politique de la ville et de l'ESS, puisque Marianne le disait, beaucoup d'acteurs de la politique de la ville, beaucoup associatifs mais pas seulement, sont des acteurs de l'ESS, beaucoup voire principalement, mais du coup n'étaient pas abordés comme tels, n'étaient pas abordés avec le concours des élus, des services qui les suivent plus régulièrement. Ça permet aussi de faire du lien entre les quartiers qui sont en politique de la ville, les quartiers qui ne le sont pas, puisque les acteurs de l'ESS souvent sont présents dans les deux. Donc voilà, cette interconnaissance, c'était la première brique. D'ailleurs, l'an dernier, on a fait une rencontre avec une soixantaine d'acteurs, élus, ESS, politique de la ville, etc. à Toulouse, et on va poursuivre ce type de rencontre. Un deuxième levier, mais on n'est pas les seuls à l'appuyer, c'est autour de la commande publique responsable, puisque... alors dans le cadre de l'ANRU notamment, on avait cette obligation de marcher durant du coup les grands travaux, etc. Et là on a quand même pas mal d'opportunités pour des acteurs de l'ESS, en particulier de l'insertion, mais pas que. L'ANRU s'est doté depuis d'une charte aussi plus exigeante pour ces marchés de l'après, c'est-à-dire quand on a des bailleurs, des promoteurs qui investissent le quartier pour son entretien, etc. Là aussi on a des perspectives pour remettre un coup de peinture, débarrasser une cave, enfin bon, les exemples manquent pas. Ouais. Donc la commande publique, et puis alors, parmi les nombreux, je dirais quand même, puisque c'est le sujet du salon, l'accès au foncier, parce que aujourd'hui on essaie d'éviter des dynamiques négatives au moment du renouvellement urbain, où des acteurs associatifs mais plus largement ESS qui souvent tiennent le quartier, sont là pour exprimer aussi la parole des habitants, trouvent pas leur place dans un processus de renouvellement urbain.
Alors on va parler dans un instant avec la FEV, juste peut-être une dernière petite question. Il y a 18 initiatives dans cette publication. Si on devait retenir quelques enseignements de ces 18, qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en avant rapidement ?
C'est difficile, il y a quelques coups de cœur, etc. Je vais essayer de ne pas parler d'une initiative en particulier. En fait, ce qu'on retient, c'est la grande vitalité. On a mis 18, on aurait pu en mettre une trentaine. Je pense que Marianne a dû avoir le même dilemme pour celle illustrée dans la doc de l'ANRU. On aurait pu retrouver les mêmes. Heureusement, on montre qu'il y a quand même une grande diversité. Donc, la diversité d'acteurs, le fait qu'on en retrouve dans tous les besoins, tous les métiers, que ce soit l'habitat, l'alimentation, le numérique, les transports. On a quand même beaucoup de... Enfin, l'ensemble des aspects, et c'est ce qu'on plaide aussi au niveau du RTS, hein, c'est que l'ensemble des politiques publiques locales, l'ensemble des besoins sociaux des habitants, mais des quartiers prioritaires politiques de la ville, mais en fait de l'ensemble de la cité, ont des besoins qui peuvent être adressés par l'ESS, que l'ESS peut aussi être un lien entre les quartiers politiques de la ville, le reste de la ville, parce que souvent c'est des acteurs transversaux. Je dirais l'enseignement, c'est cette diversité, c'est le fait que, je vais dire comme ça, il y a à boire et à manger, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des solutions pour toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. C'est aussi un moteur de transversalité, puisque ce qu'on voit, c'est que les acteurs sur le terrain, ils ne se posent pas la question des compétences, etc. Ils bossent ensemble parce qu'ils sont sur place, et ça doit nous donner cet enseignement aussi aux collectivités, à l'État déconcentré, aux agences, à bosser ensemble de manière transversale.
Allez-y, Marianne.
Je voulais juste rebondir sur ce que disait Benjamin. Effectivement, il y a une grosse capacité des acteurs de l'ESS à travailler ensemble. Et je trouve qu'il y a une grosse capacité, au fond, d'innovation sociale qui est portée par l'ESS et qu'on retrouve plus difficilement portée, même par les collectivités, les bailleurs ou l'État, parce qu'il y a aussi des logiques de programmes publics, etc. Alors que les acteurs de l'ESS, et ça rejoint un peu le réseau des innovateurs dont on parlait tout à l'heure, mais même encore plus loin que ça, ont une capacité de coopération énorme. Il y a certains dispositifs comme les pôles territoriaux de coopération économique qui l'ont vraiment montré, mais sans rentrer forcément dans le volet économique, ils ont vraiment une capacité de co-création de politique publique, enfin de politique, pas forcément publique d'ailleurs, mais de nouvelles choses, de façon innovante de répondre à des problèmes sociaux émergents ou de plus longue durée.
C'est une banalité déconcertante, mais l'union fait la force. Et là, en l'occurrence, vous le prouvez aussi, les gens travaillent ensemble.
Il fait la force et l'union est faisable, surtout entre acteurs de
gestion. En plus. Jérôme Surla, vous êtes le directeur de l'AFEV, Développement Urbain et du Lab AFEV. Alors l'AFEV, hein, c'est une association qui lutte contre les inégalités éducatives, on est bien d'accord, en offrant aux étudiants la possibilité bien, de s'engager dans des projets solidaires en faveur justement des quartiers populaires. C'est en cela que vous êtes finalement aussi un acteur national de l'économie sociale et solidaire.
Oui, tout à fait. Je crois que la FEV, par nature, et au regard de son objet social, déjà une structure à but non lucratif. Donc là, c'est un élément fort qui nous caractérise. Que par ailleurs, pour m'inscrire un peu dans le droit fil de l'intervention de Marianne tout à l'heure, on a coutume de dire à la FEV qu'on essaye de mettre de l'humain dans l'urbain. Et que finalement, en tant qu'enfant de la politique de la ville, en tout cas c'est comme ça qu'on se qualifie, puisque la FEV existe depuis 30 ans, ça a été une préoccupation constante d'orienter nos actions en direction des habitants des quartiers, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, à travers un certain nombre de programmes, oui, d'intervention, qui aujourd'hui, de manière schématique, couvrent le champ de l'éducatif, vous l'avez indiqué. La question aujourd'hui, du logement à travers le programme CAPS, des programmes qui travaillent sur la question de l'orientation et plus récemment un dernier programme qui s'adresse à des jeunes décrocheurs à travers la mise en œuvre d'une préparation à l'apprentissage, donc qui touche aussi des publics qui sont en situation de décrochage. Donc c'est tout cet écosystème-là qui finalement, sur un quartier, à un moment donné, a une force d'intervention sociale qui génère, si on reprend le triptyque économie, sociale et solidaire, et bien une dimension économique, parce que comme cela a été dit aujourd'hui, ben la FEV, 30 ans après, c'est 500 salariés qui interviennent dans près de 500 quartiers en France, donc qui à un moment donné mobilisent une richesse économique à travers une ressource humaine, une double ressource humaine, une ressource humaine qui est liée à l'ingénierie du projet, donc qui recouvre les missions des 500 salariés de la FEV, mais qui par extension, puisque ces 500 personnes sont dépositaires et porteurs de projets d'intervention sociale qui, à un moment donné, génèrent de la richesse économique à court, moyen, voire long terme. Parce que l'idée de mobiliser une partie de la jeunesse qui est plutôt en réussite, les étudiants, auprès d'une partie de la jeunesse, voire de l'enfance, qui aujourd'hui est en fragilité sociale, c'est aussi demain une garantie pour que ces populations puissent intégrer des modèles économiques, puissent s'insérer professionnellement. Donc en ce sens, sur la dimension économique, je pense qu'on est bien, là. Quoi. La dimension sociale, je viens de l'évoquer, à travers la diversité de nos interventions sociales qui, à un moment donné, font écosystème sur un quartier, et solidaire, par nature, l'ensemble des actions qui sont menées visent à renforcer la cohésion sociale, visent à renforcer la mixité sociale, donc font œuvre de solidarité. Et typiquement, si on prend l'exemple du programme CAPS que développera et que illustrera Claire après, nous, notre volonté, c'est pas simplement d'offrir une solution de logement et de faire des étudiants de simples résidents, parce que dans le cadre d'un mouvement pendulaire entre leur lieu d'habitation et leur lieu d'études, on pourrait s'en arrêter là, mais c'est de faire véritablement des étudiants qui vivent en colocation à projet solidaire, des habitants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la nature des actions qui sont développées organise la porosité avec les habitants et avec l'environnement urbain où sont implantées les colocations à projet solidaire.
Alors, on va en parler évidemment avec vous. CAPS, d'abord, ça veut dire les colocations à projet solidaire. Donc, il y a une faute d'orthographe, mais c'est volontaire, avec le cas
tout à fait,
de CAPS.
Parce qu'on évoquait la notion d'innovation sociale.
D'accord.
Et en fait, le programme CAPS est une grande inspiration que nous sommes allés puiser en Belgique, à Louvain-la-Neuve, puisque la particularité de Louvain-la-Neuve depuis 50 ans, c'est sur son foncier universitaire d'avoir construit des logements dédiés aux étudiants, mais pour 10% d'entre eux sont en colocation de 8 à 12 étudiants, et chaque quota projet est en fait dépositaire d'un projet de vie sociale de tout le campus. Mmh. Donc nous, on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas matière à remasteriser ce projet-là, ouais, et à un moment donné, de le décliner au regard des objectifs du projet de la FEB. Et ça a donné naissance au CAPS.
Donc colocation à loyer modéré destiné aux jeunes de moins de 30 ans, c'est ça, et qui s'engagent à mener des projets collectifs pour favoriser le lien social dans les quartiers populaires. Alors justement, Claire Bramandon, est-ce qu'on peut illustrer le sujet avec ce qui se passe notamment sur Montpellier ?
Oui, tout à fait. Simplement pour un petit historique assez bref, les capseurs étaient 15 la première année, il y a un peu moins de 3 ans de ça. 34 la deuxième année, ils sont 52 cette année. Donc quand on parle de transformation sociale dans un quartier, aujourd'hui les capseurs et capseuses en sont la preuve vivante, puisqu'on est vraiment sur des nouvelles formes d'habitat et une envie très forte de faire venir les étudiants dans le quartier de la Mosson, qui est quand même le plus gros quartier prioritaire de Montpellier. Et donc très concrètement, les actions qui les mobilisent aujourd'hui, elles sont de plusieurs types, des actions régulières et puis des actions plus ponctuelles. Nos capseurs se mobilisent par exemple sur des épiceries solidaires. Ils organisent également des activités de ramassage de déchets avec des habitants du quartier, des ateliers discussion avec des mamans qui parlent pas ou peu le français. Ils se mobilisent sur des temps forts du quartier qui font aussi vivre le quartier, la semaine du vivre ensemble. On a une pluralité en fait de typologies d'intervention, et dans tous les cas toujours dans le lien aux habitants. Et assez récemment et depuis peu, les capseurs et capseuses sont tellement finalement implantés dans ce quartier, ils en sont des habitants à part entière, qu'ils se sont concertés avec les habitants d'une des résidences pour lancer un projet de réaménagement d'une petite friche en bas de leur immeuble pour en faire un espace d'animation autour du développement durable, en lien également avec une association du quartier et des cultivatrices du quartier. Donc on est bien aussi dans la co-construction avec les habitants et les habitantes.
Ok, là on est au 84e congrès HLM, c'est peut-être l'occasion aussi de parler des relations que vous pouvez entretenir, notamment avec les bailleurs sociaux.
Tout à fait, alors c'est assez simple, le projet n'aurait pas pu voir le jour sans le partenariat qu'on a aujourd'hui avec ACM by Altemed, puisqu'en fait c'est eux qui identifient les logements dans lesquels vont résider les capseurs et les capseuses, et qui non seulement les identifient mais les remettent en l'état pour certains d'entre eux, les équipes, les meubles. Et j'en parlais tout à l'heure sur une autre table ronde, la possibilité, l'espace pour s'engager quand on est étudiant, on l'a aussi quand on sait derrière qu'on n'a pas la charge mentale de potentiellement devoir trouver un petit travail à côté. Et donc l'idée de pouvoir intégrer un logement à loyer modéré qui est équipé, et en plus de ça on arrive à Montpellier et on a la possibilité de se retrouver avec d'autres étudiants, et donc de faire lien avec les habitants du quartier, c'est essentiel en fait dans la mise en œuvre de ce projet. Et donc oui, on travaille avec ACM by Altemed depuis maintenant plusieurs années sur une quinzaine de logements. Voilà, parce qu'il faut les loger, ces 52 capseurs et capseuses.
Jérôme ?
Oui, on parlait d'économie sociale et solidaire tout à l'heure, mais typiquement, le projet CAPS, à travers l'offre de logements abordables en termes de loyer, propose une solution à la crise du logement étudiant qui traverse quand même aujourd'hui notre pays. Et pas que, parce qu'il se trouve que sur certains projets que l'on a, qui sont aujourd'hui des projets résidentiels, on inclut aussi de jeunes salariés qui connaissent les mêmes difficultés que les étudiants pour accéder au logement. Alors ça fait évoluer aussi, je dirais, le prisme de la politique de la ville, puisque historiquement, on réfléchissait beaucoup à une intervention à l'échelle du quartier, mais ce dont on s'aperçoit, nous, et notamment à travers le programme CAPS, c'est que le programme CAPS offre une opportunité de décohabitation aussi de jeunes de quartiers populaires, d'inscrire aussi ce mode d'habiter dans une trajectoire résidentielle qui permet la décohabitation du milieu familial et l'accès à l'autonomie du logement, et qui permet aussi à des jeunes de territoires plus éloignés qui, quand ils intègrent une agglomération, quand ils intègrent une ville intermédiaire qui est dotée d'une offre d'enseignement supérieur, si la solution de logement n'est pas proposée, et ben ce sont des jeunes qui s'interdiront de faire des études supérieures. Donc qui dit aujourd'hui s'interdire de faire des études supérieures, et ben c'est des chances en moins de pouvoir avoir la perspective d'une insertion professionnelle réussie. Donc la dimension économique doit se prendre, de mon point de vue, de manière assez large. Et à travers ce type de programme-là, On répond aussi à un certain nombre de débats contemporains sur la fracture territoriale, sur l'opposition entre les métropoles, les territoires plus ruraux. Donc c'est aussi une adaptation de cette forme d'innovation sociale qui fait évoluer aussi la politique de la ville. Je veux dire, on a des cartes aussi aujourd'hui qui sont publiées. On voit bien que la politique de la ville est quasiment présente maintenant sur tous les territoires nationaux.
Et c'est heureux. Quelques mots encore, Jérôme Sturla, sur le Lab AFEV, concrètement, c'est quoi ?
Bon, le Lab AFEV, c'est un peu notre média qui nous permet à un moment donné de pouvoir mettre en lumière un certain nombre de projets que l'on juge innovants, pour le coup, des projets qui peuvent être source d'inspiration pour d'autres, la FEV, mais pas que. Et c'est surtout, ça nous permet d'organiser un peu la tension entre la réflexion et l'action. Parce qu'aujourd'hui, il y a nécessité, quand on porte des projets comme ça, de pouvoir poser des mots sur ce que l'on fait pour, à un moment donné aussi, comme on le fait aujourd'hui, un peu vulgariser et populariser des actions qui ont du sens et qui ont surtout un impact social avéré.
Claire Bramandon, est-ce qu'on arrive à mesurer les impacts, par exemple, mesurables des projets solidaires menés notamment par les capseurs ?
Oui, tout à fait. J'aurais dû venir avec mon bilan. on a tout à fait, et grâce au travail formidable, et je tiens à rebondir sur ce que disait Marianne tout à l'heure, le travail qui est mené par les équipes salariées de la FEV, que ce soit tant au niveau national que localement, on a, à travers différentes études d'impact et questionnaires, pu mesurer en fait aujourd'hui l'impact positif de l'engagement des capseurs et des capseuses. Alors forcément, j'ai pas toutes les données chiffrées là, mais ce que je peux vous dire de manière très très concrète, c'est que aujourd'hui, des capseurs et capseuses qui s'engagent et qui sont au nombre de 52, ça veut dire qu'on ouvre en fait des créneaux supplémentaires dans une épicerie solidaire, par exemple. En fait, ils viennent permettre à certaines structures du quartier tout simplement de déployer davantage de créneaux, davantage de propositions d'ateliers et donc finalement de couvrir aussi davantage de besoins des habitants du quartier.
Ok, si on veut se renseigner sur tout ce que peut faire la FEV, si on a envie de s'engager aussi, concrètement, on fait comment ?
Il y a un site internet.
Tout simplement. On rappelle l'adresse ?
www.afev.org.
Ah, c'est bien dit ça. Un grand merci à vous tous et à vous toutes d'être venus sur ce plateau. Merci également de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Ce programme a été diffusé en direct depuis Montpellier et le 84e congrès HLM. Disponible également en replay, en podcast sur l'ensemble des plateformes de diffusion. Merci et à très vite.
Merci à vous.
Vivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.